Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Pour la dernière de l'année 2022, j'avais envie de te proposer un épisode un peu différent, moins axé sur la parentalité en tant que telle, mais toujours focus sur la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Laure, l'astrologue pas trop perché qui se cache derrière le compte Insta, la Switchologie. Quand elle était plus jeune, Laure avait une idée bien précise de ce que serait son schéma de vie. Elle allait évidemment rencontrer le grand amour au début de la vingtaine, se marier autour de 24 ans et tout naturellement avoir des enfants. Mais Roger, le mec qui crée dans le plus grand sérieux chaque être humain, n'en avait rien à faire des plans de carrière sentimentale de Laure. Et après quelques déceptions amoureuses et une trentaine d'années de vie au compteur, Laure est toujours célibataire et sans enfant. On aurait envie de lui dire que c'est pas bien grave et qu'elle a le temps, qu'un mec et des enfants c'est pas le plus important. Mais la réalité, c'est que lorsque tu es amoureuse de l'amour et que tous tes potes se casent et font des kids, c'est à chaque fois un coup de projecteur sur ta solitude et les projets que tu crèves d'envie de réaliser. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Laure.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci. Merci beaucoup.
Eh bien, je suis ravie de te recevoir, c'est assez inattendu et tu nous expliqueras pourquoi. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît?
Eh bien, d'abord, je voulais te remercier de m'accueillir puisque j'étais un petit peu forcé la main.
C'est moi. Alors non, non, tu ne m'as pas forcé la main et ça, c'est quelque chose que je souhaite rétablir tout de suite. J'accepte les propositions et je dis oui de bon cœur quand ça rentre dans la ligne éditoriale et quand ça rentre en concordance avec ce que je fais. Donc, tu ne m'as pas forcé la main du tout.
Bon, parce que c'est moi qui t'ai envoyé un message. C'est un sujet qui était important pour moi. Et du coup, je te remercie de m'accueillir, de me donner la parole.
Écoute, avec plaisir. Donc, qui tu es maintenant?
Laure, 32 ans. Je suis astrologue. Alors, j'aime bien dire astrologue pas trop perché. Parce que je fais de l'astrologie vraiment pour du développement personnel. C'est un outil pour moi fabuleux. Je suis une grosse loveuse dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je pense que c'est déjà bien.
Bah oui, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que, Laure, tu désires être mère?
Oui.
C'est un oui franc.
Franc et massif.
Ouais. Depuis toujours?
Depuis toujours, depuis toujours. J'ai toujours, j'avais mon plan de vie, tu vois, à 25 ans, je me mariais, à 27, mon premier enfant, 30, mon deuxième. Donc je pense que j'ai voulu toujours avoir ma famille, partager avec des enfants, j'adore les enfants. Mais on verra que tout s'est pas passé comme prévu. Et il y a quelques temps, je me suis vraiment posé la question. Tu vois, c'était beaucoup moins franc et massif.
Ouais.
Peut-être qu'on y reviendra. Mais oui, oui.
Pour moi, c'est important de questionner le désir d'enfant parce qu'en fait, je sais d'expérience et à force de parler à des gens que ce qu'on imaginait comme dans le désir d'enfant avant et ce qui se passe quand ça arrive, c'est vraiment pas la même chose. Donc je trouve ça intéressant que tu dises qu'en fait, tu avais ton chemin qui était tout tracé et que tu as questionné ce désir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, questionner le désir d'enfant?
Je pense que j'avais une vision très idéalisée, tu vois, comme dans la société, le mari, le chien, avant le chien, c'est marrant, tiens, avant le chien, avant les enfants, et que c'était un parcours logique, en fait, qu'on a toujours connu, enfin, que moi, j'ai toujours connu. Hein. Je dis « on », mais souvent, c'est moi, hein, donc je fais attention. Mais ouais, c'était logique, voilà.
Ouais.
Sauf qu'en fait, c'est pas si logique.
C'est pas si logique que ça. Et non, mais par contre, peu de gens se questionnent autour de ça. Tu disais tout à l'heure que tout s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire que le chien, je sais qu'il est là.
Oui.
Il c'est un petit saucisson né le même jour que moi, donc je sais qu'il est là. Et qu'est-ce qui est pas arrivé comme prévu?
L'amour.
Ouais.
25 ans, le mariage.
Non. Non. T'étais bah alors.
Je suis pas bon dans mon plan de vie là.
Non mais parce que tu m'as. On va reprendre depuis le début. Pourquoi tu m'as demandé de participer à Prenons un café? Quelle était ton intention?
La démarche. Je pense que j'ai clôturé, fermé un chapitre et j'avais besoin. C'est très égoïste. J'avais besoin de fermer ce chapitre avec toi. J'ai commencé un livre, en fait, cet été, tu vois, célibataire, 30 ans, que je n'ai pas terminé. Et j'avais besoin de cette instantanéité, tu vois, de raconter. Ouais. Voilà. Et après, je me dis, vu que moi, je l'ai vécu, vu que c'est quand même le gros dossier de ma vie, mais que j'aime au final, hein, j'avais envie de le partager pour redire aussi aux autres, bah, t'es pas seule. Et ta punchline, c'est quand même, vous n'êtes pas seule à galérer. Donc...
Mettez vos écouteurs et prenons un café. Non, mais c'est vrai que c'est important. Et tu vois, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une nana, Colline, qui a fait un bébé toute seule. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que justement, elle était célibataire. Et on a parlé de cette question-là du célibat. Pour toi, tu m'as dit en off que c'était un peu l'histoire de ta life. En tout cas, le truc hyper important dans ta vie. Pourquoi c'est le truc le plus important dans ta vie?
Ben, en fait, je ne sais pas. Tu vois, je me suis questionnée. Parce que je me disais, elle allait me poser cette question. J'ai toujours été une loveuse. Je sais pas comment dire. Tu vois, dès l'enfance, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, au-delà de tout en fait. Et c'est drôle parce que la dernière fois, je suis rentrée chez mes parents et j'ai retrouvé mon journal intime que j'avais eu à ma communion, tu vois, à 12 ans. Et en fait, je ne parle que d'amour, que de mecs. Alors moi, je suis hétéro, voilà. Ouais. Donc je ne parle que de ça. À toutes les pages. Alors que, tu vois, moi, paradoxalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé le collège. Moi, j'ai trouvé un groupe de potes, des copines, tu vois, on était 8 filles. Donc, 8 filles, t'imagines les histoires qu'il pouvait y avoir au collège. Et je ne parle absolument pas d'elles.
Ah ouais.
Jamais. Et ça m'a percutée, tu vois, je me suis dit, voilà, avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais dis donc, c'est intéressant, ça sera raconté en psychothérapie. Mais ouais, c'était vraiment le sujet, je ne parlais que de ça, à 15 ans, j'écrivais, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose ouais, c'est le sujet qui m'a toujours intéressée, passionnée. Même avec mes copines, on parle que de ça. Enfin, tu vois, c'est toujours le sujet, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, on verra que c'est plus un sujet qui a été si facile du coup, mais à cette époque-là, c'était vraiment le sujet majeur. C'était l'amour, c'était les mecs, c'était trouver l'amour, tu vois, trouver ma personne parfaite pour moi. Alors, j'ai lu un livre justement sur Elle cherchait le prince charmant, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir été bercée, moi, par les Disney. Tu vois, chez moi, on a regardé un peu les Disney, mais pas de fou. Alors bon, après, c'est la société, tu vois.
C'est pas que les Disney, Dieu, ça peut être aussi dans les bouquins, ça peut être aussi dans les... Bah, dans tout, en fait, dans tout ce que tu regardes. Enfin, si tu aimes les films de Noël, par exemple, très d'actualité. Mais enfin, tu vois, tout ça, en fait, t'as toujours cette notion-là de, en fait, une femme... pour réussir sa vie dans une société qui pense le couple comme étant hétérosexuel, dans une société hétéronormée, pour réussir sa vie, une femme doit trouver l'amour, tout faire pour le garder, en plus. Et puis après, le fameux déroulé de maison, mariage, maison, donc, peu importe le sens, mais enfant, si possible deux, si possible garçon-fille, sinon après, en fait, on te questionnera toujours si tu sors de ce cadre-là. Donc en fait, c'est même pas juste les Disney au final, parce que, tu vois, mais c'est vraiment la société dans laquelle on évolue.
Oui, bah, ça tu vois, j'en ai pris conscience aussi, je l'ai questionné au final, mais je crois que ça me passionne, tu vois, ça me passionne d'être en lien, et en ayant fait voilà, des formations maintenant, en suivant une formation de psychothérapie, je sais pourquoi, tu vois, c'est parce que c'est dans le lien que tout se passe, et pour moi, et c'est dans le lien aussi où tu te connais mieux, tu vois, l'autre est au final le miroir de toi, donc c'est là où tu apprends le plus sur toi, parce que si tu es seule dans ton coin, tu restes dans ta tête, et voilà, il se passe pas grand chose. Donc je pense que c'est pour ça, c'est pour après. Voilà, moi, bon, je suis astrologue, hein, Jean-Michel Astro, il n'est jamais là. Je vois dans mon thème que, tu vois, il y a ce côté vraiment très relationnel et c'est pour ça que j'en ai fait aussi mon métier. Mais oui, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir été vraiment bercée dans le côté love. Enfin, tu vois, c'est pas trop mon univers familial, mais certainement, tu vois, certainement qu'il y a une part de ça. Mais par contre, moi, ça m'a toujours intéressée. Beaucoup plus que n'importe qui, beaucoup plus que mes frères, par exemple, beaucoup plus que mes copines. Voilà, ça a toujours été le sujet.
Okay. Et ça veut dire quoi? quoi l'amour pour toi?
L'amour, mais c'est les
c'est petits marrant, les petits appétits dès qu'on dit le mot, c'est
l'amour,
trop mignon.
Mais déjà le mot, tu vois, ouais. L'amour, je me suis dit, je vais me le tatouer parce que rien que ce mot me donne des frissons, tu vois. Ouais. C'est le partage, c'est grandir ensemble, évoluer, tu vois, mais même dans l'amitié, en fait, c'est l'amour amical. C'est vraiment passer des moments ensemble et de se sentir vivant au contact de l'autre. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est surtout ce côté grandir avec l'autre que j'aime.
Et dans ton histoire personnelle, est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as été déjà en couple avec quelqu'un?
Oui. Alors oui, on va le voir, on spoil pas trop, mais j'ai déjà été en couple. En fait, moi, j'ai eu un parcours, je sais pas si c'est classique, mais voilà, du coup, forcément, j'ai eu des petites amourettes au collège, même en primaire. Hein, voilà. Tu vois, je suis restée pour le collège, genre 6 mois, ça m'arrivait de rester 6 mois avec un garçon. Ouais.
Ah, c'est des grandes histoires au collège.
C'est des grandes histoires.
C'est genre, ça y est,
très grande.
Ah, mais oui, t'as envoyé les faire part.
T'as la gourmette, t'as le cœur coupé, je t'aime.
Si on était aux États-Unis, t'aurais la veste.
Ah, mais tu vois, ça aurait pu. T'as les mêmes baskets, enfin, tu vois, des trucs de collège. Et après, je suis restée très longtemps, enfin, pratiquement 3 ans. Là, mon histoire la plus sérieuse, on va dire, la première, c'est un mec, voilà, au lycée. Bon, spoiler alert, un gros connard, mais bon, maintenant je sais pourquoi c'était, voilà, en ayant travaillé un petit peu dessus. Mais du coup, lui, il a quand même marqué vraiment mon début de relation, enfin, mon début de vie vraiment amoureuse. Et bon, ça s'est pas passé comme prévu non plus. Donc lui, voilà, je suis restée un petit moment avec lui. Après, j'ai pris un peu de temps, du coup, pour me remettre. Je suis restée avec un garçon aussi 1 an et demi. Voilà, très sympa, en somme toute. De toute façon, en plus, il me suit sur Instagram, donc ça, Toby va... il va savoir que c'est lui dont je parle. Et après, je suis restée aussi 3 ans et demi avec quelqu'un qui était voilà, de confession musulmane. Et du coup, il m'a quittée, alors qu'on parlait mariage et tout, tu vois, à 24 ans. Il m'a quittée et du jour au lendemain, voilà, il a laissé sa clé et on vivait ensemble et il est parti. Parce que ses parents, tu vois, n'ont pas accepté.
Ah ouais?
Oui. Okay. Oui. Donc en fait, lui, il était bien dans mon plan de vie, tu vois, 25 ans, mariage. Donc j'avais plus qu'un an, en fait.
On était bon dans le timing. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vis cette rupture? Parce qu'en fait, tu vois, moi, il y a un truc, et c'est très marrant, entre guillemets, que tu m'aies proposé cette interview, parce qu'en fait, pour moi, le couple, la rupture, ce sont des sujets qu'on minimise trop et qui ont un impact énorme, en fait, sur une vie. Parce qu'en fait, alors, tu me dis si tu as le même point de vue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je me dis, en fait, on parle des relations, tu sais, avant The One. Celui avec qui tu es censé faire des enfants et rester toute ta vie, genre le majeur. Dans tout ce qui est avant, ça compte pas.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Comme si, en fait, ces ruptures-là n'étaient pas importantes et comme si elles n'avaient pas un effet sur ta vie. Alors qu'en fait... si, spoiler alert, si ça a une importance, et je te dis ça parce que c'est mon histoire personnelle aussi, hein, parce que même si j'aime mon amoureux plus que tout au monde et ça fait genre 8 ans qu'on est ensemble, en fait, l'histoire avant lui, elle a eu un impact sur notre histoire aujourd'hui, elle a toujours un impact aujourd'hui, et il y a toujours des séquelles de cette rupture-là aujourd'hui. Parce qu'en fait, les histoires, enfin, quand tu donnes à ce point à quelqu'un, quand tu rentres dans une histoire d'amour, en fait, tu donnes une partie de toi. Et c'est aussi important que l'impact que peut avoir, par exemple, peuvent avoir tes parents, ta famille ou dans le cercle dans lequel tu évolues. Et ça, on n'en parle jamais.
Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, en psychothérapie ou pendant mes formations, parce que je fais beaucoup de formations sur le couple, on parle que de ça.
Ouais.
Du coup, on vient à la rétrospective de ta vie et on regarde chacune des relations, qu'est-ce qui a pu se jouer, tu vois, qu'est-ce qui peut se reproduire d'une relation à une autre, alors que sur le papier, c'est des garçons qui sont complètement différents. Donc ça, tu vois, oui, et en tout cas, dans la formation que je fais, tu vois, la fin, c'est hyper important. C'est encore plus important
que l'histoire
en elle-même. Tu vois, comment ça se termine, qu'est-ce que t'en gardes, et tu vois, moi... Par exemple, les relations, à chaque fois, je coupais sec.
Ouais.
Je ne parlais plus à la personne. Enfin, tu vois, il était rayé de ma vie, en fait.
Ouais.
Mais même si c'était... Enfin, bon, c'est plutôt toujours moi qui me suis séparée, au final. Moi, je rayais, tu vois. Hop, tu n'existes plus, les photos sont arrachées.
Ah ouais.
Mais c'est quand même assez violent, hein, quand je me... Et alors que maintenant, tu vois, c'est beaucoup plus doux. Et genre là, mon dernier... C'est compliqué pour moi de dire ex, parce que j'ai l'impression que je suis célibataire depuis très longtemps.
Ouais.
Mais j'ai quand même eu des petites relations qui n'excède pas, tu vois, quelques semaines, voilà, 1 mois, 2 mois. Et donc, le dernier ex, on est amis maintenant.
Ouais.
Ce qui m'était jamais arrivé, tu vois, de bien terminer à tel point qu'en fait, non, on n'est pas amoureux, mais on s'entend bien. Donc, pourquoi couper le lien?
Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais par contre, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est dans les magazines féminins ou quoi, mais tu as un peu cette injonction justement à couper tout lien avec la personne avec qui tu as été en relation amoureuse, j'ai l'impression.
Ben, c'est le passé, tu vois. Il y a un truc. Et bah, je suis désolée, je vais peut-être parler beaucoup de psychothérapie et de ma formation,
moi,
parce que je vis ça à fond.
J'aime bien.
Je suis passionnée. Mais tu vois, une des phrases de la psychothérapie, c'est celui qui n'a pas conscience de son passé est condamné à le reproduire. Et donc, je trouve que tout est dit. En fait, si tu n'as pas conscience de pourquoi tu t'es séparée, si tu ne travailles pas un minimum sur ça, bah, en fait, ça reste un point d'interrogation et tu feras peut-être pareil avec celui d'après, quoi.
Non, mais carrément. Et c'est marrant, cette phrase, elle résonne vachement en moi parce que je trouve qu'elle est valable dans toutes les sphères de la vie en général. Tu vois, cette phrase, c'était une affiche qu'il y avait dans ma salle d'histoire géo.
Ah.
Par rapport à toute l'histoire, genre la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Et en fait, c'est vrai. Si t'as pas conscience du passé et des erreurs qui ont été commises, en fait, on les reproduit en tant que civilisation et en tant que personne aussi, individu. Donc c'est hyper intéressant. Elle me parle vachement de cette phrase. Je vais rebondir sur un petit truc. Mm-hmm. T'as dit, c'est toujours moi qui ai quitté.
Oui.
Sauf que tu viens de nous dire que la personne avec qui était censée être ton plan de vie a posé les clés sur la table et est partie.
Et c'est moi qui ai envoyé le message.
Ah ouais?
Bah, oui.
Du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en plus, c'est un gros sujet, ça. Si j'ai des copines qui écoutent, genre mes collègues de boulot, coucou les filles, franchement, vous allez vous reconnaître. Il y a eu c'est notre fou rire, c'est vraiment un running gag, parce qu'une fois, je me suis séparée d'un garçon, encore une petite histoire, tu vois, et c'est moi qui l'ai largué, mais en fait, dans ma tête, c'est moi qui ai pris la décision, mais c'est parce que, tu vois, je pense qu'il laissait couler le truc. Sauf que moi je coupe sec, et enfin, voilà, t'as compris, du coup. Et du coup, j'avais envoyé un message. Il m'a quitté, tatati, tatata. Et le lundi, quand on retrouve au boulot, tu vois, elle lise le message. Elle dit, mais en fait, c'est pas du tout lui qui t'a quitté, c'est toi qui l'as quitté. Et en fait, dans ma tête, tu vois, moi, je réagis à un truc, mais dans les faits, je pense qu'il y a, peut-être plus jeune, mais il y a très peu de garçons qui m'ont... Enfin, c'est toujours moi qui ai pris la décision.
Tu saurais expliquer ça, pourquoi?
Mais certainement. Bah, je pense que c'est, quitter pour pas être quitté.
Ouais. Si en fait, tu sens le vent venir un petit peu de la fin de la relation.
Je sens peut-être le vent venir ou ça me convient pas ou je vois pas comment je vais m'en sortir, tu vois. À cette époque-là, du coup, quand j'étais plus jeune, c'était encore plus compliqué. J'avais pas le recul que j'ai maintenant, la thérapie que j'ai faite, que je continue. C'était beaucoup moins facile de mettre des mots. Donc c'était plus facile pour moi de couper le lien sec. Et voilà. Et ça fait. Tu vois, je préfère arracher.
Ouais.
Ah, voilà, un bon coup, une bonne fois pour toutes, moi.
Ouais, mais ça fait mal quand même.
Ça fait plus mal, en fait. Mmh. Tu vois, ça fait plus mal et ça aurait pu être beaucoup mieux soigné, enfin, beaucoup pris avec soin. Tu vois, la rupture aurait pu mettre avec soin. Ce que je fais maintenant, beaucoup plus, tu vois. Et c'est intéressant, c'est que je tombe sur des garçons qui, le fait qu'on arrache comme ça, ça leur va pas.
Ouais.
Donc, tu vois, ça m'invite à aussi bien finir.
Ouais. Mais c'est ce que tu disais aussi, dans les relations dans lesquelles on est, elles agissent un peu en effet miroir. Et si aujourd'hui tu attires des garçons qui ont besoin de ça, c'est parce qu'aujourd'hui toi tu es comme ça aussi.
Oui.
Et
c'est ça qui est fascinant.
Bah oui, non, mais moi,
j'adore.
Ça pourrait durer très longtemps. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et donc tu disais cette fameuse histoire où en fait il y a eu la clé parce que divergence de culture finalement, où t'étais pas acceptée finalement telle que tu étais.
Oui.
C'était ça au final.
Oui, j'avais pas rencontré ses parents, tu vois. C'était une relation qui était quand même cachée alors qu'on a vécu ensemble, tu vois, quand même. En fait, il est parti un week-end chez ses parents où je savais qu'il allait en parler. Tu vois, c'était un peu l'ultimatum. Moi, j'ai dit, mais écoute, on vit ensemble. À un moment donné, il va falloir que ce soit un peu plus officiel, quoi. Mmh. Donc, j'avais pas mis un ultimatum, mais un petit peu quand même. Et en fait, il m'a pas envoyé de message tout le week-end. Et c'était le week-end de Pâques. Donc, tu vois, 3 jours sans nouvelles. Alors que, c'était pas habituel. Et je pense qu'en fait, il n'arrivait pas à me le dire, tu vois.
C'est marrant, Pâques, la mort du Christ.
La mort de la relation. tu vois, et c'est moi qui ai pris les devants. Parce que je sentais que, ça allait pas... Ouais. Voilà, ça allait pas... c'était un gros sujet entre nous, au final. Donc,
Mais t'as envoyé un texto.
Oui.
T'as pas...
Ah oui, moi je suis la reine du texto.
Ah oui, mais je vois ça.
Ouais, oui, il y a que... et tu vois, le dernier... Bon, maintenant, on est amis, donc on peut en rigoler. Mais le dernier, forcément, il fallait que je me sépare de lui. Enfin, je devais me séparer de lui pour des raisons. Et en fait, l'ancienne Laure, elle envoyait des textos. Donc la nouvelle Laure, elle ne doit plus envoyer des textos. texto. Et pour la petite histoire, c'est mon voisin, en fait. Il habite...
Ah, c'est marrant. Ouais, c'est... Oui, donc tu peux pas tellement l'éviter. Bah, t'aurais pu envoyer un texto, mais
on s'était jamais vu avant. Ah, ça fait 5 ans qu'on habite dans le même endroit et on s'était jamais vu avant. Donc, mais je dis, bon, allez, faut que je lui dise, mais pas par un texto, ça se fait pas. Et, c'est, ouais. Et j'ai été sonnée, je lui ai dit, et c'est fini, et je suis repartie. Donc même lui, il a dû se dire, tu vois, mais qu'est-ce qu'elle me fait encore? Ouais, bah, c'est drôle, je sais pas s'il l'a bien pris sur le coup. Voilà, et après j'ai envoyé un texto pour m'excuser, mais que c'était trop dur pour moi de le dire et que voilà, on pouvait en discuter. Et tu vois, c'est rigolo parce qu'on en a rediscuté il y a pas longtemps, pour voilà, enfin après coup quoi, quelques semaines après.
Ok. Mais donc du coup, moi je reviens sur cette histoire parce que tu parlais tout à l'heure au tout début d'un plan de vie.
Oui.
Et cette histoire qui se termine, ça met à mal ton plan de vie en fait.
En autre boudin. Ouais.
Mais vraiment parce que enfin. Tu avais, et je sais parce que j'avais un peu la même image du mariage à 25 ans. Enfin, non, moi, c'était avant, parce que ma mère avait un enfant à 25 ans. Enfin, bref, c'est toujours la reproduction. Hein.
Exactement.
On n'est pas là pour faire ma psychothérapie, on est là pour faire la tienne. Mais déjà. Mais donc, du coup, au moment de cette rupture-là, est-ce que tu te dis que tes plans de vie tombent à l'eau comme tu les avais imaginés? Comment tu vis ça?
Oui, je pense qu'il y a eu ça. Il y a eu la séparation avec lui, mais... Je pense que je l'avais toujours dans un coin de ma tête que ça allait être compliqué quand même avec lui. Je pense que ça, je l'avais en tête. Par contre, c'est tout ce que ça engendrait justement de ce plan de vie. De voilà. Bon, après, j'étais encore jeune, tu vois, 24 ans au final. Mais ça a eu des grosses répercussions après. En fait, sur le coup, j'ai rien senti. Tu vois, moi, j'ai un peu un côté. C'est pas que je ne vis pas mes émotions. C'est pas que j'ai de la résilience ou quoi. C'est que je me dissocie. Ouais. Enfin, je ne vis pas l'émotion parce que c'est trop dur. Donc, pendant vraiment très longtemps, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Je suis retournée le lendemain au travail. J'ai dit, bah, en fait, je me suis séparée. Voilà. Et à mes copines, et c'est tout.
Ah ouais.
Et elle me disait, bah, c'est quand même, ça fait quand même, ça faisait 3 ans et demi, tu vois, c'est quand même chaud, vous viviez ensemble, il t'a laissé sa clé, enfin, c'est quand même violent. Ouais, non, c'est bon. Voilà.
Jusqu'au retour de Boomerang.
Jusqu'au retour de Boomerang.
Combien de temps ça a pris, ce retour de Boomerang?
Franchement, je pense 6 mois.
Ah ouais,
6 mois. Ouais. Ça a pris 6 mois. Et à ce moment-là, j'avais des copines célibataires. Du coup, on sortait en boîte, tu vois, voilà, dans le vieux Lille et tout. Et en fait, il y avait des. Je m'en rappelle, c'était dans. Je sais plus comment il s'appelle. Radio Club. Ça dansait pas mal. Tu sais, les garçons, ils invitaient pas mal les filles. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui m'invitaient à danser. Et moi, j'étais comme ça, les bras. Tout.
Tu vois, refusais.
Ah ouais, refusais. Et elle me dit, mais enfin, tu vois, et ça devient une blague aussi, tu vois, lors de ma... Enfin, j'allais dire mon nom, mais voilà, parce qu'il m'appelle avec mon nom de famille. Les bras serraient parce que non, personne ne m'invite, tu vois. Ouais. Et donc, c'était vraiment le symptomatique, enfin, représentatif de ce que ça m'avait fait.
Mais surtout final. Qu'en plus, tu dis que t'es une loveuse, quoi.
Oui.
C'est que toi, tu aimes l'interaction, tu aimes le lien, la liaison, tout ça. Et là, tu coupes net, en fait.
Ouais, en fait, j'aime le lien, tu vois. C'est avec la psychothérapie. J'adore le lien. Mais par contre, comme je sais que j'ai un côté très intense, c'est oui ou c'est non, tu vois. Et ça, j'ai appris à faire un peu différemment. Ouais. Mais c'était oui ou c'était non, tu vois. Donc, c'était non, bah c'était non.
Ok. Et comment il s'est manifesté, alors, ce retour de boomerang?
Dépression.
Ah, la fameuse.
Ah oui.
Ah, bienvenue.
Oui, bah, tu vois, tu te retrouves à 25 ans à prendre des antidépresseurs.
Ah oui.
Ça a été. En fait, je pense que c'était une accumulation de plein de choses, tu vois, parce qu'au final, j'ai fait une reconversion pro après. Enfin, il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas. Mais c'était surtout ça, tu vois, le sujet de me retrouver 25 ans seule, alors que, bah, tu vois, toutes mes copines du collège dont je parlais étaient toutes en couple, toutes avec, tu vois, voilà. Je dis tout le temps qu'il y a une faille spatio-temporelle quand j'arrive, parce qu'ils habitent à Saint-Omer, enfin, voilà, ils habitent pas sur l'île. Et quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression, tu sais, d'être un ovni, en fait, puisque elles ont des enfants, elles sont mariées, voilà, en couple depuis très longtemps. Et en fait. Elles ont le schéma classique. Est-ce que, au final, moi, j'aurais bien voulu, tu vois, j'aurais bien voulu rencontrer mon mec à 18 ans et ça m'aurait bien plu, tu vois. Mais ça ne s'est pas passé, voilà, comme ça. Et au final, c'est tout, c'est comme ça, c'est mon chemin.
Hasard.
Non, il n'y a pas de hasard. Mais du coup, moi, à chaque fois, tu vois, je me heurte à ça, en fait. Et à tel point que là. Quand on fait des réunions de Noël ou tu sais, on organise un petit truc trop sympa, j'y vais plus.
Ah ouais.
parce que ça me fait trop mal
c'est
au cœur.
C'est trop douloureux.
La dernière fois, j'y suis allée. Je sais plus, il y a quand même, ça fait déjà plusieurs fois que j'y vais plus. Je suis rentrée du coup à Lille. Dans ma voiture, j'ai pleuré pendant toute l'heure de trajet. Ouais. Et ça m'a, j'ai mis 3 jours à m'en remettre, tu vois.
Ouais.
Parce que c'était trop violent, ça me renvoie à ce que, à, tu vois, ce que moi j'ai pas et cette espèce de normalité que moi j'ai pas.
Qui n'est pourtant.
Qui est... Voilà.
Mais t'en parles avec elle de ça? Elles réagissent comment au fait que tu y ailles plus, par exemple? Est-ce que tu es encore en contact avec ces personnes?
Oui, oui, je suis encore en contact. C'est vraiment mes amis d'enfance. Je pense qu'elles comprennent, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a un moment donné, bah, je loupe des choses. Ouais. Je vois pas leurs enfants, tu vois. Enfin, je les vois. En fait, j'aime bien les voir à part.
C'est pas un par un.
Voilà, un par un. Mais en fait, c'est, la, c'est le, tout le monde.
Ouais.
C'est parce que moi, je, du coup, quand c'est tout le monde, ça veut dire eux, ils ont tous leur famille. Ouais. Et moi, j'arrive tout seul comme un rond de flanc, tu vois. Et du coup, je me sens pas hyper à l'aise. Et puis, c'est des mamans. Donc, tu vois, il y a les enfants qui viennent, tu sais ce que c'est. Voilà.
Bah, t'es plus à 100% comme tu peux l'être quand t'as pas d'enfant, en fait, tout simplement, dans la conversation. Et c'est normal, enfin, c'est comme ça.
C'est pas, je suis pas jugeante.
Non, non,
voilà,
non.
C'est normal, c'est leur étape de vie, tu vois, que moi j'ai pas, en fait. Et du coup, y aller, et tu vois, te sentir. Des fois, je me retrouve tout seule à la table, en fait, tu vois. Et je parle plus à leurs copains, limite, parce que.
Parce qu'on nous sommes dans une société patriarcale.
Donc, enfin, ils sont quand même. Je peux pas dire ça parce que si elles m'entendent, elles vont dire. Mais ils sont quand même. Mais c'est même pas évolué.
Non,
vois,
mais oui, c'est pas. Mais il n'empêche que ça reste une réalité et que même si on essaye d'être de plus en plus égalitaire, c'est quand même très très loin d'être le cas. Et généralement, tu vois toujours les mecs à table et les nanas en train de s'occuper des gamins.
Oui.
C'est un fait, c'est comme ça, c'est tout. Après, on chemine. Hein.
Oui,
ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est
un
fait.
Oui, et puis est-ce qu'ils sont OK et tout avec ça? Tu vois, moi c'est juste que bah, quand il va, tu sais que potentiellement, bah, tu peux pas, et puis tu vas pas avoir des échanges, tu vois, profonds, ou tu peux pas faire une conversation comme tu ferais avec une personne en face à face pendant une heure avec un thé, tu vois.
Oui, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Non.
Et donc, la dernière fois, vraiment, ça a tellement été dur que je leur ai dit, ils ont envoyé un message, bah, qui vient à Noël, et j'ai dit, bah non. Alors, je l'ai dit en off, pas devant tout le monde, mais à chaque personne. Voilà. Donc, je pense que ça, j'imagine, tu vois, que ça puisse faire mal au cœur aussi, parce que c'est quand même, voilà, je suis pas là. Mais c'est, la balance, elle est trop, c'est trop difficile pour moi encore.
Mais c'est ça, mais en fait, je trouve ça courageux et en même temps ça montre aussi que tu commences à bien te connaître et que tu prends soin de toi, de savoir dire non aux situations qui te font du mal en fait. Et ça n'a rien à voir avec les personnes en elles-mêmes et qui elles sont en fait, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'en fait il y a un moment il faut que tu te protèges.
Oui, c'est vital, mais tu vois c'est vital.
Tout comme ça peut être aussi le cas, par exemple, de couples qui ont des problèmes de fertilité et qui ont du mal à se retrouver avec leurs amis qui ont, eux, des enfants. Et c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment, en fait, on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, et que c'est pas parce que c'est la famille, c'est pas parce que c'est des amis de longue date qu'on est obligé de s'imposer une situation qui est trop douloureuse. Et c'est ce que j'aime dans ton discours en même temps, c'est que ça peut montrer aussi par l'exemple, peu importe la situation, hein, que ça peut être si on est en PMA, ça peut être si on a perdu un bébé aussi, ça peut être, enfin, il y a plein de situations quand on est célibataire qu'on n'est pas obligé de s'imposer parce que c'est ce qu'on attend de nous en fait. Et je trouve ça chouette que tu ne te l'imposes pas.
Oui, que je me l'impose plus.
Oui, mais bon, à un moment pour ça, pour dire stop, j'ai l'impression qu'il faut savoir aller jusqu'au bout.
Mais tu vois, tu fais un super parallèle parce que moi je me retrouve beaucoup quand j'écoute tes épisodes, par exemple dans les parcours PMA.
Ouais.
Parce que je trouve qu'il y a plein de, tu vois, le ce côté pas y arriver.
Mais c'est une attente en fait.
Oui, oui.
C'est la même attente finalement.
Oui, oui. C'est la même attente.
Je t'attends. Je fais un parallèle avec Jennifer. Toi, tu attends l'amour. Mais c'est une attente quand même qui peut être, enfin, qui est insupportable en fait, tout simplement.
Oui.
Et c'est la même chose. Enfin,
quand est-ce que c'est mon tour, tu vois. Donc
c'est ça,
c'est. Tu vois, pour avoir échangé même avec Natacha, qui est une amie aussi, que tu as interviewée, on avait beaucoup de similitudes, tu vois, sur comment on le vivait, ce que ça nous faisait.
Ouais.
Au final, d'être. Et puis, tu as toujours cette un peu normalité que tu n'as pas, en fait, tu vois. Donc, tu es un peu hors des clous.
Ouais, carrément. À quel moment tu as cheminé, toi? Non, c'est même pas ça la question. Est-ce que tu acceptes le fait, aujourd'hui, que tu ne sois pas dans cette normalité?
Alors,
j'aime pas dire normalité. Parce
j'aimerais
qu'en fait,
mieux
c'est
que
fou,
ce soit différent.
Mais, ouais.
j'aimerais mieux que ce soit différent, mais je l'ai accepté. Et en fait, je trouve que, tu vois, c'est une phrase bateau, mais c'est vrai. En fait, tout est juste, tu vois. Je pense que du coup, j'étais pas dans une démarche de rencontre vraiment de quelqu'un pour pas les bonnes raisons, mais tu vois, il y avait pas tout ce cheminement que maintenant les relations que je vis sont complètement différentes de ce que j'ai pu vivre avant, tu vois.
Est-ce que tu dirais que avant les relations, enfin, tu te mettais en couple avec quelqu'un avec ce schéma de vie en tête? Et qu'aujourd'hui, peut-être, quand tu es dans une relation, c'est avec la personne.
Alors, en fait, il y a eu plusieurs passades parce que du coup, ça fait presque 9 ans que je suis célibataire, là.
Ouais.
Donc, 9 ans, j'ai roulé ma bosse, hein, en célibat. Donc, c'est la dernière histoire, tu vois, de 2014. Il y a eu plusieurs phases, en fait. Tu vois, je pense qu'au début, le temps de te remettre, le temps de comprendre un peu, j'ai pas compris tout de suite, tu vois. Et après, j'ai enchaîné des histoires où il n'y avait même pas d'histoire, quoi, en fait. Ouais. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai vraiment, tu vois, eu toutes les phases. C'est pour ça que je voulais écrire un livre, tu sais, parce que il y a eu plein de phases de célibat. Et au final, il n'y a que depuis, on va dire, depuis que j'ai commencé la psychothérapie, les formations, voilà, en gestalt, hein, notamment, que j'y ai vu plus clair. Et on va dire, il n'y a que depuis 6 mois, peut-être, où je suis en paix avec ça.
Ouais. Enfin, ça prend du temps, hein.
Ça prend du temps.
C'est fou. Tu parlais tout à l'heure, juste avant, de ta dépression, la fameuse dépression à 25 ans.
Oui.
Quels ont été pour toi les symptômes de cette dépression? Et est-ce que tu es allée chercher de l'aide tout de suite?
En fait, j'ai eu, tu vois, ma vingtaine, ça a commencé avant aussi. Hein. Ça a commencé quand même avant où j'avais des petits symptômes. En fait, ça paraît pas, mais je suis quand même quelqu'un de très angoissé. Vraiment, je fais des crises d'angoisse, tu vois. Ouais. Ça m'arrive encore d'en faire maintenant. Et donc, ça a commencé... J'avais, je pense, 21, 22 ans. J'avais loupé, en fait, un semestre. Voilà. Ah ouais. Et l'échec, ça a été hyper violent. Du coup, j'avais été convoquée et on m'avait dit, il faut que tu cartonnes sur le deuxième pour pas redoubler. Alors qu'en soi, redoubler, c'est pas la mort non plus. Mais pour moi, c'était pas possible. Non, ça a été un choc. Et du coup, j'ai forcé pendant tout le semestre. Tu vois, j'en ai même terminé ma genre de promo tellement... j'avais eu peur, tu vois, il y avait quelque chose. Et donc, je me suis pas bien respectée pendant cette période-là. Tu vois, je mangeais plus beaucoup, je buvais du coca le soir à la place de manger, parce qu'il fallait que j'apprenne, tu vois. Et alors là, ça a commencé les crises d'angoisse. Mon corps, en fait, il a dit c'est bon, quoi, stop. Et après, régulièrement, tu vois, il y avait des épisodes comme ça. Comme ça n'a pas été traité à un moment à 21 ans, c'est revenu plus ou moins, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai eu un épisode à 25. Après, j'ai eu un gros épisode aussi à 27, 28. Tu vois, tous les 2-3 ans, il y avait des cycles.
Est-ce que tu allais remuer le caca entre ces 2-3 ans?
Non.
Ah oui,
J'ai quand même... après 25 ans, je pense que j'ai quand même... Puis en plus, j'étais au boulot et j'avais une super chef. Et elle m'avait donné, tu vois, déjà un psychothérapeute. J'avais été à le voir un petit peu, mais c'était trop dur pour moi à ce moment-là. Ouais. Et après, j'avais quand même une coach, tu vois, thérapeute TCC, on va dire, qui m'avait pas mal aidée. Mais c'était une fois par mois, tu vois. Ouais. Donc, j'avais un soutien, mais on n'a pas été gratté. Il n'y a que là depuis, on va dire, 2 ans et demi qu'on gratte bien.
Ouais.
Ça pique
sévère.
Ça pique.
Mais non, mais tu vois, c'est intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est un truc que je vois depuis pas très longtemps aussi. Hein. L'expression du corps, c'est incroyable en fait. Comme ton corps t'envoie des messages, mais depuis presque toujours finalement, et qu'en fait on n'a jamais appris à les reconnaître.
Oui.
Et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que moi des signaux genre de ce que je peux vivre en ce moment de difficile, ça fait 15 ans que j'en ai. Genre 15 ans, rien que ça. Et en fait, typiquement, tout ce qui va être autour de la digestion, de l'intestin, du faire caca, où ça sort pas, il y a un moment, en fait, quand tu as fait tous les examens et qu'on t'a dit « vous allez bien, madame », en fait, c'est pas mon corps qui va pas. C'est là-dedans, c'est dans la tête que ça va pas. Et en fait, ça, mais à aucun moment, un médecin m'a dit « peut-être qu'en fait, c'est là, c'est dans l'esprit ». Tu vois.
Est-ce que tu es prêt à l'entendre?
Parce
que
tu vois,
moi j'ai eu des problèmes d'intestin, de d'estomac, t'imagines bien. À 25 ans justement, j'ai fait une coloscopie.
Ah, c'est sympa. On aime bien.
On adore la coloscopie, surtout la phase de préparatoire qui est géniale. Et en fait, on n'avait pas trop trouvé sur le coup. Après l'examen, ils avaient quand même trouvé un petit truc. Mais je sais que mon oncle, il avait dit, mais tu sais, c'est peut-être psychosomatique. Ouais. Il m'avait dit un truc comme ça, mais avec douceur. Mmh. Oh, j'avais pété un câble.
Ah, ouais.
Ah oui, j'avais dit, mais Jacques, enfin, tu vois, parce que ça m'avait heurté. En fait, ouais. que c'est, moi, je voulais que ce soit mon corps, tu vois, et ouais. pas.
Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'en fait. Tu me dis si tu penses la même chose, mais que c'est pas réel en fait, que qu'on comprend peut-être pas en compte ta douleur physique et que peut-être c'est pas que tu fakes, mais presque on te croit pas parce que c'est pas un truc dans ton corps.
Exactement.
Alors qu'en fait, mais en même temps on te dit aussi, enfin moi je sais pas, j'avais cette connotation là du mot aussi psychosomatique d'un truc que genre ouais, enfin c'est dans ta tête,
elle simule,
genre
quoi.
Ouais, elle simule, c'est ça. Mais alors, en fait, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire que c'est ta tête, ton cerveau qui t'envoie des messages via ton corps parce qu'ils sont reliés, parce qu'ils sont dans la même personne. C'est ça que ça veut dire.
C'est
et
ça.
Et pour mettre les mots, en fait, justement, les bonnes définitions à côté des bons mots, hein, des bons mots, en fait.
Bah, c'est ce que tu as dit, c'est que du coup, ton corps commence à t'envoyer des messages que toi, tu n'arrives pas à décrypter. Non. Donc, tu vois, à ce moment-là, on aurait pu me dire n'importe quoi. Ouais. Genre, c'était pas ça dont j'avais besoin, tu ouais. vois. C'est après, tu vois. Que ça
chemine, hein. Mais en vrai, oui. Bon, et puis tu es bien placé pour le savoir, c'est qu'en fait tout arrive en temps et en heure aussi. Mm. C'est que on n'est pas, c'est pas si facile que ça en fait. C'est un long chemin, la psychothérapie. Déjà, juste le chemin entre le moment où tu as des signaux et le moment où tu vas prendre ton téléphone et tu vas prendre le rendez-vous, c'est normal en fait qu'il se passe du temps. C'est pas, on réagit pas tout de suite. Même quand on est en dépression, on réagit pas forcément tout de suite. C'est normal en fait. C'est pas de la fainéantise. C'est pas qu'on veut pas se soigner. C'est pas ça. C'est juste que c'est le process qui est comme ça. Et c'est un process qui est à respecter dans toutes les sphères. Un peu difficile, mais même facile, même joyeuse de la vie, en fait, parce que c'est le cas dans le deuil, c'est le cas dans les séparations, c'est tout un process, en fait, et parfois, et je vais revenir sur notre sujet, c'est que parfois, même après la séparation, même quand ça fait longtemps, et même quand t'es avec quelqu'un d'autre, bah, tu peux toujours être dans le deuil de la séparation, et tu peux toujours être dans le deuil de l'histoire d'avant. Là, c'est moi qui parle, c'est mon expérience qui parle.
Et donc ça, tu vois, en psychothérapie gestalt, c'est une gestalt inachevée. Donc, en fait, dans notre vie, on a plein de gestalt ouais. inachevées, de fins qui n'ont pas été soignées, qui ouais. n'ont pas été bien faites, tu vois. Et donc, la gestalt, la psychothérapie, elle vient soigner tous ces gestalt inachevées.
C'est intéressant, ça.
Ouais.
Oh, on va aller voir gestalt. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, je trouve que qu'on minimise, en fait, l'impact de tout ça. Et que parce que tu es dans une nouvelle histoire, il faudrait que tu aies clos le chapitre et que tu n'aies plus... Enfin, c'est pas des sentiments, parce que c'est même pas des sentiments amoureux. Il faudrait que tu ne penses plus et que tu sois plus touchée
ouais.
par une rupture ou par un ex ou peu importe en fait. Mais ça, dans la vraie vie, c'est pas possible.
Non.
Ça n'existe pas. On est tous normaux à ce que ça ne nous arrive pas en fait. Enfin,
oui, oui, voilà. Oui. Bah, après, on est quand même dans une société où, tu vois, on voit vraiment qu'on n'a pas été appris à faire tout ça, à écouter. Alors, ce qui est cool, c'est que ça change dans les écoles, tu vois, les émotions qui arrivent de plus en plus. Mais en fait, on a tellement été, faut être fort et faut pas montrer ses émotions, faut pas pleurer, faut pas machin, qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est ouais. tout de suite remis où c'était et ça reste dans le ventre, tu vois.
Ouais. C'est bon, j'ai compris le message.
C'est pareil pour moi.
Aujourd'hui, il y a des choses qui sont intéressantes et ça m'a fait un peu sourire ta demande justement, parce qu'il semble que tu organises des comment t'appelles ça, des
astrodates.
Ouais, des astrodates. Et je trouve ça marrant en fait. Pourquoi tu nous expliques ton concept d'astrodate et pourquoi tu le fais?
Alors, c'est rencontrer des gens dans la vraie vie. Donc, astrodate, c'est quand même, c'est pas l'amitié, c'est quand ouais. même des gens qui sont plutôt qui sont célibataires. Et donc, rencontrer des gens dans la vraie vie et avec des matchs, ou un peu comme des speed dating, ouais. en fait, où du coup, les personnes que tu vois sont des personnes qui peuvent matcher avec ton thème astral. Sachant que c'est juste une clé d'entrée, tu vois, moi, je suis pas une zinzin de l'astro non plus, mais c'est rencontrer des gens de manière différentes et tu vois, du bah bon, t'es ce signe là, bah moi je le connais pas, qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est ouais. plus dans cette optique là. Mais parce que tu vois, moi les applis, voilà, ça venait.
Il n'y a
ça...
pas les signes astro dans les applis.
Si,
si.
Ah si.
À mon époque, ça n'existait pas, madame.
Mais non, t'as tout. Et tu vois, moi, le signe, et c'est ça, après, le revers aussi, c'est que quand t'es de. Bah, t'analyses tout.
Ah, oui.
Du coup, ah bah non, lui, il est Sagittaire, non, c'est mort. Tu vois,
ah ouais.
Donc c'est ça, moi j'ai dû travailler aussi sur ça, sur le fait qu'en fait tu viens vraiment rencontrer quelqu'un, tu vois, parce que je pouvais avoir ce truc de tu vois, de checklist, ah bah non.
Alors
lui,
que c'est après.
Oui,
c'est après la rencontre que tu peux te dire, ah bah tiens, c'est marrant qu'il soit tel signe, parce que voilà, tu vois.
Oui. Mais du coup, moi, ça m'arrivait de demander, tu vois, avant même de rencontrer la personne, le thème. Si j'avais l'heure, en plus, c'était trop cool. Et en fait, de faire plein de petites histoires, alors que la personne, c'est quand même la vraie vie et c'est quand même ce que tu ressens avec la personne. Voilà. Mais tu vois, j'ai compris après que moi, j'avais tellement ce truc de... Alors, je pense qu'il y a deux choses. Tu as l'attente. Ouais. Tu vois, comme ça fait 9 ans, bah, tu attends cette personne qu'on dit, cette personne qui va t'apporter tout. Donc ça, c'est un leurre. Ouais. Et en même temps, bah, y a des trucs, tu vois, où bah, tu vois la personne et il n'y a que en la voyant que tu sais, en fait, tu vois. Ouais. Ça ne peut pas être un thème ou ça ne peut pas être parce qu'il est je ne sais pas quoi, tu vois.
Est-ce que tu organises des astrodates pour toi?
Non. je suis pas, tu vois, je suis pas au champ et à la ville. Je peux pas être sur tous les dossiers. Mais par contre, je le fais. Je pense que je le fais parce que c'est quelque chose qui me manque, tu vois. Voilà, donc je le fais à travers travers les gens. C'est pas anodin, tu vois, si j'organise ça. Ouais. C'est parce que pour moi, c'est un combat, tu vois, de vie, de venir rencontrer, de venir être en légèreté. T'as plusieurs personnes, tu vois, et il y a quelque chose d'assez cool et d'assez parce que j'ai un problème, ça va un peu mieux, mais tu vois, aller rencontrer par exemple un mec en premier date, c'est une angoisse pour moi, parce qu'il y a plein de choses derrière, tu vois. En fait, c'est la rencontre, mais pour moi, il y a plein de choses qui sont associées.
Genre,
est-ce que c'est l'homme de ma vie ou pas, tu vois?
Ah oui, c'est tout de suite ça.
Fut un temps, c'était ça. Donc en fait, forcément, j'y allais, forcément, pratiquement à coup sûr, j'étais déçue. Donc tu vois, moi, j'avais la théorie des 3 secondes. Ah. En 3 secondes, je savais.
Tu lis trop Cosmo.
J'aurais pu écrire des articles pour, tu sais. Mais j'avais ça, tu vois. Des fois, j'étais même pas encore rentrée dans le bar que, voilà, j'avais que c'était mort ou que ça allait plus ou moins le faire. Mais des détails, du coup. Et en fait, et c'est là où c'est pas juste, c'est parce que tu ne rencontres pas la personne vraiment, puisque dans ta tête. Mais je me suis rendu compte que c'était un mécanisme, tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, après, c'est très. Voilà, c'est la psychothérapie qui te montre ça, mais oui, je me rendais compte que c'était pas sain la manière dont j'allais rencontrer l'autre, au final. Que maintenant, j'ai la sensation d'aller plus rencontrer l'autre et de vraiment créer quelque chose.
Quand tu dis « j'allais chercher l'homme de ma vie », ça veut dire quoi exactement, aller chercher l'homme de sa vie? En tout cas, comme tu le voyais, parce que maintenant, on a bien compris que tu n'es plus dans cette optique-là, mais ça voulait dire quoi exactement?
Je peux avoir des rechutes, quand même.
Oui, ça, j'imagine. On a tous des rechutes, ok, on est humains. Mais ça veut dire quoi, aller chercher l'homme de sa vie? Ça veut dire, est-ce que tu es poussée par le désir d'amour et de cette relation un peu prince charmant toute l'explosion de sentiments? Ou est-ce que tu dirais que tu es plus poussée par cette envie de créer une famille et tout ce que ça implique?
Alors, je pense que avant tout, c'est en fait, toi, je me suis beaucoup penchée sur la question des enfants, tu vois, parce que je m'étais dit, bah, si je vois que ça patine encore jusqu'à, je sais pas, je me suis dit 38 ans, je ferai un enfant tout seul, tu vois, parce que j'ai vraiment cette envie. En fait, moi, avant tout, je veux rencontrer quelqu'un, tu vois, qui auquel on va s'apporter des choses mutuelles. C'est ça mon vrai truc. Mais je pense que j'ai toujours, quand j'allais dans des rendez-vous comme ça, c'était de trouver mon binôme. En fait, moi, j'ai toujours ce truc de trouver un binôme, mon binôme. Donc, je ne l'imagine pas parfait surtout, mais qu'on construise ensemble des choses, tu vois. Ouais. Comme les gens qui sont en parcours PMA qui disent « Ouais, j'aimerais bien avoir des nuits de merde, j'aimerais bien galérer aussi avec mon enfant. » Bah, moi, c'était ça aussi. J'aimerais bien m'engueuler avec quelqu'un et puis dire « Ouais, et puis en fait, après, dire bon, tu vois, je pense que j'ai beaucoup idéalisé, mais en même temps, c'était pas que vivre les bons moments, je voulais aussi vivre les mauvais moments, tu vois.
Ouais.
Donc c'était vraiment rencontrer quelqu'un, mon binôme, celui qui va partager ma vie.
Parce qu'au final, j'aurais pu être avec des gens, tu vois, de combler la solitude. Tu vois, je fais pas ça non plus, tu vois, je pourrais être avec des gens qui m'intéressent pas trop. Mais il y a un côté où, si c'est ça, je suis pas authentique avec moi-même. Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est vraiment rencontrer la personne qui, avec qui, plutôt, j'aurais envie de faire des enfants, de créer ma famille.
Mais c'est intéressant parce que tu vois, tu as cette démarche de. C'est pour ça que je t'ai posé la question un petit peu de à quel point ton désir d'enfant est présent, tu vois. Parce que il y a d'autres personnes, et c'est le cas de, par exemple, Colline, qui a fait la PMA solo, qui disait en fait, je veux un enfant, mais je veux pas forcément de la relation. C'était quasiment presque inversé à toi.
Ah, ouais.
Et c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. Dire en fait, ben, moi, je veux un enfant et je veux avoir ce lien avec l'enfant et le fait de l'élever et d'avoir ce truc-là. Toi, tu veux d'abord faire une équipe avec quelqu'un et potentiellement ça amènera vers un enfant.
Oui.
Par contre, t'es quand même prête à envisager un enfant toute seule. Enfin, je veux dire, c'est pas. S'il n'y a pas le couple, il n'y aura pas l'enfant.
Oui.
Il y a quand même ce désir qui reste là et que tu envisages en solo.
Oui.
C'est
tout à fait ça.
En fait, je me suis même posé la question, tu vois, de congeler des ovocytes.
Ouais.
Dans ma famille, il y a aussi quelqu'un qui avait besoin d'un don d'ovocytes. Donc, dans ces cas-là, ils te demandent aussi des gens qui ont des critères pour pouvoir le faire. Comme ça, eux, ils en ont un aussi un peu plus rapidement. Enfin, il me semble que ça marche comme ça.
Bah, le don d'ovocytes. En fait, le truc, c'est que quand tu es sur liste d'attente, et petite parenthèse, hein, mais quand tu es sur liste d'attente pour un don d'ovocytes, si un de tes proches donne des ovocytes, en fait, ça te monte dans le classement.
Exactement.
Tu reçois pas les ovocytes de ton proche qui a donné, mais en même temps, mais ça te permet en fait justement d'avoir accès plus facilement aux dons.
Voilà. Bah, c'était ça. Ouais. Et tu vois, je me suis posé la question à ce moment-là, et en fait, je me voyais pas moi ne pas avoir d'enfant et avoir. Alors, ça reste un don d'une matière, d'un ovule, et que c'est tout. Mais tu vois, il y avait quand même ce truc de. J'étais pas à l'aise avec le fait que moi j'ai pas d'enfant et qu'il y a potentiellement un enfant, tu vois, de moi.
Qui était gêne.
Ouais, ouais. Tu vois, je vois que le chemin n'était pas fait sur la. C'est pas mon enfant, en fait, tu vois, c'est juste un ovule.
Ouais.
Mais voilà, j'étais pas à l'aise. Et du coup, j'ai pas fait cette. Enfin, j'ai pas fait
la démarche.
Ouais.
Ok. C'est fou.
Mais je m'étais posé la question, j'avais vu tu vois, une émission, je sais plus, un truc genre toute une histoire ou un truc comme ça, qu'elle expliquait et que tu pouvais congeler, du coup aussi les tiens.
Oui, c'est vrai.
Donc je me suis sérieusement posé la question et au final, je pense que je souffrirais plus de pas avoir une relation, comme moi je l'entends, que de pas avoir d'enfant. Ouais,
c'est exactement la question que j'allais te poser justement, c'est marrant.
T'es de connexion.
Mais ouais, j'allais te demander à ton avis, tu viens d'y répondre, hein, mais qu'est-ce qui était le plus difficile en fait à envisager une vie sans amour entre guillemets? Parce que c'est pas une vie sans amour, t'as d'autres formes d'amour en fait dans ta vie.
Oui, oui, mais tu vois, il y a un truc où tout ça apparaît sur les réseaux sociaux, ou bien d'être fière d'être célibataire, enfin tu vois, et ça c'est trop cool, tu y vas enfin vraiment à fond. Mais moi, tu vois, je l'ai vécu comme une souffrance. Donc c'est la souffrance de ma vie, ça, tu vois. C'est pour ça que c'est le sujet de ma vie, c'est pour ça que tu vois, si je termine pas thérapeute de couple, je comprends pas avec tout ce que tu vois. Mais ça reste un sujet douloureux, plus douloureux que de pas avoir d'enfant.
Ouais. Tu disais qu'il y a 6 mois, t'avais clôturé un petit peu ce truc-là. Ça veut dire quoi clôturer et qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah j'ai une histoire d'amour un peu. J'ai rencontré quelqu'un qui. Mais c'est là où même ma psychothérapeute elle me dit, c'est là où t'as basculé, où les prises de conscience elles ont été le plus fortes, parce que du coup moi j'ai un côté un peu sauveur dans la relation, tu vois, j'aime bien des gens
un peu torturado
mais en fait il y avait un mec qui m'avait dit ça quand j'avais fait mon thème astrologique védique, tu vois, indien, il m'avait dit en fait c'est bien que vous ayez ces gens-là dans votre cabinet, que vous soigniez ces gens-là, mais par contre pas dans votre vie privée.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'il y avait tout un truc par rapport à ça. Et là, lui, il a clôturé l'histoire. Enfin, tu vois, il a clôturé ce truc d'aller vers des torturados, vers des gens où du coup, bah, tu te sens valorisé parce que tu le sauves, parce que tu lui tiens la main, tu vois. Mais en fait, bah, qui me tient la main moi pendant ce temps-là, tu vois.
Mmh.
Et donc lui, il a vraiment terminé une boucle. Tu vois, de quelque chose. Et c'est la première fois où je me suis sortie, tu vois. Et pour le coup, là, c'est mon corps qui m'a dit « Casse-toi de là
». Tu vois ? Parce qu'il y avait du caca. Enfin, du caca. J'aime bien le mot caca.
La dépendance,
ouais,
tu vois.
C'est ça. De sa part. Et en fait, toi, t'as eu un rejet, en fait.
En fait, j'ai expérimenté. Tu vois, en fait, c'était un gars. Moi, donc, je suis une loveuse, donc j'étais tombée sur un gros lover, tu vois, mais qui te paye des restaurants, la première rendez-vous, c'était genre le truc, machin. Que maintenant, tu vois, ça, c'est un red flag pour moi. Me dire, qu'est-ce qu'il a besoin de nous prouver, en fait, tu vois. Mais il m'a fait rêver.
Ouais.
Voilà.
Le prince charmant. Ouais.
Et puis, je te veux toi, mais c'est toi, mais j'ai eu un coup de foudre. Enfin, tu vois, donc, tout des trucs. Qui vient flatter des trucs à l'intérieur. Et en fait, très, très peu de temps après, j'ai vu le caca.
Ouais.
J'ai vu l'envers du décor et tu vois des choses pas très cool de sa personnalité, et puis surtout que c'était quelqu'un qui était en extrême souffrance, tu vois, et que moi avec mes petits bras je pouvais rien faire, tu vois. Donc j'ai dit stop.
J'ai pris la décision, mais du coup en mon âme et conscience, et bon, lui il a pas dû bien comprendre, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir été au bout de ce truc et du coup été au bout d'un schéma.
Ouais.
Je sais que maintenant ça ne se reproduira plus, et je veille, tu vois, aux rencontres que je peux faire après, de pas être dans une position justement de sauveur, et parce que tu vois, je peux parler d'astro, j'ai la gestalt maintenant, donc t'es toujours en train d'analyser, de dire ah, tiens, mais en fait pendant que t'analyses l'autre, tu t'analyses pas toi.
Ouais.
Tu vois, c'est une belle fuite aussi.
Ouais,
et donc là, lui, il a clôturé, voilà, les choses. Et après, j'ai rencontré quelqu'un, mon voisin, enfin mon voisin, qui était totalement différent, tu vois, qui en tout cas, c'était quand même une belle histoire qu'on a vécue. Et je pense que voilà, c'est parce qu'il y avait eu tout ce truc-là qui avait été terminé.
Ouais.
C'est intéressant.
Et du coup, c'est quoi c'est quoi la suite? Genre comme si tu pouvais le savoir, mais c'est quoi aujourd'hui? Bah, réponds-moi à cette question. Pourquoi on fait cet épisode-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pense que c'était, tu vois, je te disais, c'était vraiment thérapeutique pour clôturer cette histoire, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai avancé dans ma réflexion, et aussi pour montrer, tu vois, tout l'envers du décor, toute la souffrance aussi que ça peut être, tu vois, d'être célibataire dans notre société, ou globalement, tu vois, même encore là dernièrement, dans ma formation, j'ai rejoint un groupe, tu vois, donc on apprend à se connaître, et on me dit, il fait quoi ton mec? Comme si, en fait, c'était même pas... tu vois, on me demande même pas, est-ce que t'es célibataire? Comme si c'était pas possible de pas être célibataire, tu vois. Ou, mon Dieu, il y a un truc qui cloche chez elle. Ou, ah, elle est trop exigeante. Enfin, tu vois, tout des... voilà. Et puis, les repas de Noël où on te demande, tu vois, ton cousin, tu ramènes personne. Tu vois, j'avais envie de parler de ces sujets-là aussi, parce que moi, ça a été... Maintenant, c'est apaisé, mais ça a été d'une violence. À pas vouloir aller à certains repas de famille, à pas vouloir faire certaines choses, tu vois.
Non, mais en fait, ce qui est intéressant, et ce que je pense, enfin, le message en tout cas de tout ça, c'est que, en fait, c'est normal aussi d'être malheureux, d'être célibataire, parce qu'en fait, t'as toujours ces injonctions de dire, mais en fait, un peu féministe peut-être sur les bords, de dire, mais en fait, je suis bien toute seule, vaut mieux être tout seul que mal accompagnée. Et oui, c'est vrai. Ça, c'est indéniable. Il vaut mieux être seule qu'être avec quelqu'un qui te pourrit l'existence et qui va te drainer toute ton énergie. C'est pas l'idée. Mais en même temps, de dire que, bah ouais, ça fait mal en fait.
T'es seule, t'as beaucoup de solitude, même si t'es entourée. N'empêche que tu te lèves seule, tu manges seule, tu partages rien le soir. Tu vois, le dimanche soir, quand t'es solo, tu vois, c'est pas le moment le plus ragoûtant. Il y a toute cette dimension-là, tu vois, qui est minimisée. Et quand aussi t'as pas été célibataire longtemps, même s'il n'y a pas d'échelle de célibat, voilà. Mais quand un an de célibat... que t'avais une longue relation, c'est pas du tout le même célibat, tu vois, parce que tu profites, tu te redécouvres, t'as l'indépendance, c'est trop cool, tu sors en boîte et après tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc pour moi, t'as pas été dans le, enfin c'est pas, tu vois, c'est pas
non, il y a pas de
jugeant ou
non,
de
y a pas d'échelle.
Mais t'as pas été dans le dur de waouh, en fait c'est pas du tout la même optique de putain, ça fait 9 ans que je suis célibataire, je dois avoir un souci, tu vois. Mm-hmm. Et, voilà, c'est tout, t'as une expérience, t'as été célibataire, tu te reconstruis et hop, t'es prêt pour une nouvelle. C'est pas du tout dans le même niveau de creuser sur toi quand ça fait 9 ans ou quand ça fait 1 an.
Puis on a toujours cette image de... pardon, c'est vraiment pas... c'est pas un jugement. Mais cette image de la vieille tante célibataire. Mais non, mais qui est hyper négatif. Mais non, mais c'est hyper négatif, en fait. Et je pense que justement, l'injonction de dire, en fait, on peut être heureux célibataire, elle est aussi... Enfin... C'est aussi important de le dire parce que c'est vrai.
Oui.
Tu peux aussi te suffire à toi-même et t'es pas obligé d'être en couple pour être heureux. Il n'empêche que le célibat peut être une souffrance. Tout comme le couple peut être une souffrance aussi parce que tu veux rentrer dans des cases dont tu me mets en couple, alors que potentiellement c'est pas ce qui te convient. Mm. Tout comme avoir des enfants parce qu'il faut avoir des enfants puis finalement se rendre compte que, en fait, non, c'est pas ce que je voulais. C'est aussi possible et c'est aussi important. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de parler de tout ça parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il faut faire ça pour être heureux. On fait une rencontre avec soi-même pour savoir ce qui nous convient. Toi, ce que tu sais que l'amour te rend heureuse, tu sais que la vie de célibataire te fait du mal, et en fait, c'est ok.
Bah, c'est ça, c'est que c'est toujours pondéré. Il y a certains aspects que j'aime beaucoup, tu vois, et puis d'autres aspects qui sont quand même souffrants. Et en plus, quand tu, dans mon cheminement, quand tu fais des formations, quand tu te formes à la psychothérapie, que forcément le couple, c'est, tu vois, le lien, en fait, c'est toujours observé. Et du coup, que toi, tu peux même pas expérimenter, Ouais. Tu vois, même la sexualité, tu sais que t'aimes bien, et moi j'adore aussi. Tu vois, j'aimerais bien un psychothérapeute, psychologue, tu vois, ouais. dans mes projections, dans ma vie à 10 ans. Tu vois, pareil, la sexualité quand t'es célibataire.
C'est vrai.
On pose la question. Ouais, qu'est-ce que. Ouais, puis en plus, si tu rencontres des gens avec qui ça dure pas très longtemps, t'as pas le temps justement
de faire la rencontre,
la sexualité, tu vois, c'est des vraies questions en fait.
Mais non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. Non, mais la sexualité, ça va être un sujet dans ma vie aussi, à un moment. Il va falloir. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu vois, est-ce que la question de la sexualité est tellement taboue qu'en fait, je suis pas sûre qu'elle. Quand tu vas dire, ouais, je suis célibataire depuis 9 ans. Enfin, que ça.
Mais les gens, ils s'imaginent, tu vois. Oh là là. Parce que après.
La pauvre. Hein,
vraiment la pauvre fille, tu vois. Mais en fait, c'est parce que pendant les 9 ans, tu vois, il y a eu quand même des histoires. Et en vérité, j'ai pas été célibataire 9 ans. Tu vois, mais dans ma tête, il y a personne qui a remis mon compteur célibat, à part le voisin. Sinon. Tu vois, et que du coup, maintenant, c'est moins facile pour moi de dire ça fait 9 ans que je suis célibataire, parce que lui, j'ai l'impression qu'il a remis mon compteur à zéro de célibat. Ouais. Mais il s'est passé quand même des choses, tu vois, je peux pas dire.
Mais pas d'histoire qui remette le compteur à zéro. Ouais, et qui te mette ton plan de vie, entre guillemets, sur des rails que tu aurais choisi.
Oui.
Voilà, c'est pas pareil.
Non.
Non, parce que moi aussi, avant mon mec, entre mon mec actuel et mon ex. Ça va faire. Il y en a eu! Non, c'est pas
que. J'ai écumé!
Mais il y a eu un truc. Je ne les prends jamais en compte, ces personnes. Parce que c'est pas qu'elles n'ont pas compté. Elles ont compté à un moment T. Mais elles n'ont pas été non plus à remettre.
Déterminantes.
Voilà, déterminantes dans ma vie, en fait. Elles ont été nécessaires sur une étape de deuil, certainement. Mais pas non plus à remettre ma vie, à changer complètement ma vie. C'était pas le cas.
Oui.
Mais donc, du coup, moi, je peux comprendre, en fait, ce truc de dire, ben. Oui, il y a eu des histoires, mais ça reste des histoires, quoi. Genre,
voilà. Mais après, moi, maintenant, je vois que toutes les histoires, tu vois, comptent, au final.
Oui. Ah oui.
Et que, au final, je n'ai pas resté très longtemps avec les personnes à chaque fois, mais elles m'ont apporté des choses, tu vois. Le garçon, je le remercie, au final, de ce qui m'a fait vivre, parce que, du coup, ça m'a permis aussi de, moi, faire un pas énorme en avant, alors que ça a duré très peu de temps, tu vois.
Mais tu sais, moi, il y a, de cette période-là, un mec qui était dans ma vie, je crois, un mois. Ce mec a changé ma vie.
C'est beau, ça, tu vois.
Et tu vois, c'est le mec qui était juste avant Alexis, avec mon conjoint. C'est drôle. Hein. Mais il a changé ma vie parce qu'il m'a dit, et c'est drôle parce que vous allez comprendre la signification de cette phrase, il m'a dit que je n'étais pas là par hasard.
Oh.
Et c'est depuis, en fait, j'ai compris. Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est vrai ça.
C'est pas con.
C'est intelligent ce que tu me dis là. Je vais aller continuer ma vie avec cette phrase en tête maintenant. Jamais ça n'aurait pu marcher entre nous pour plein de raisons. Mais il a quand même changé ma vie. C'est un mec qui a fait partie de ma vie pendant un mois. Je l'ai rencontré sur Adopte un mec. On s'est pas vu beaucoup de fois, mais il a changé ma vie.
Mais c'est trop cool. Mais tu vois, c'est ça, moi. Quand tu me racontes ça, moi, ça me fait vibrer ce genre d'histoire, tu vois.
Ouais.
Comment une personne peut vraiment te faire des déclics. Et en fait, c'était tout ce que la rencontre. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime autant la rencontre. C'est que des fois, c'est des rencontres comme ça, futiles, même une soirée, et ça te fait évoluer sur des choses.
Ben oui. Et c'est pour. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser, en fait, les relations. Les amourettes.
Oui.
Les amours. Enfin, toutes ces relations, même les trucs de, je sais pas, quand t'as 10 ans et que t'es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, en fait, ça se minimise pas parce que ça laisse des traces et ça a un impact sur toute ta vie, en fait.
Bah, tu te rappelles, tu vois, tu te rappelles de ton premier amoureux, de ta première pelle roulée au préau, tu vois, tu te rappelles de tout ça et de ce que ça a pu te faire. Après, ce qui est maintenant, moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la relation, tu la vis différemment. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va me faire découvrir, tu vois. Et en fait, ça change tout. Parce que tu sais que t'as confiance en toi, moi, en tout cas, je parle de moi, que je vais me réussir à me dépêtrer des situations parce que, tu vois, la première histoire, j'étais sous emprise de ce gars-là et je n'arrivais pas à m'en sortir, tu vois, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Voilà, il a fallu vraiment un électrochoc et qui a fait que du coup, du jour au lendemain, je l'ai plus aimé.
Ouais.
Voilà. Mais tu vois, il y a un côté où faut être en confiance avec soi pour pouvoir aussi savoir si ça va me convenir ou pas et de stopper si ça me convient pas.
Mais vraiment, en fait, cette phrase de il n'y a pas de hasard, c'est vrai. Ah, parce que. C'est marrant ce truc de couper net pour sortir d'une relation sous emprise. Arrête de raconter ma vie, Laure, enfin.
Je crois qu'on fait tout ça.
Ouais. Non, mais c'est important, mais ça peut aussi venir d'une personne extérieure. Genre, une nouvelle rencontre comme ça, paf, qui va te sortir d'un truc. Il n'y a rien à minimiser, en fait.
Mais c'est ça que tout est beau, ouais. Je trouve. Tu vois, c'est tous ces parcours, toutes ces petites choses, petites étapes qui sont trop belles.
Ouais, carrément. Merci, Laure.
Merci, Elise.
Est-ce que tu as une petite chose à ajouter aux personnes qui t'écouteraient, qui seraient dans cette situation-là, dans ta situation, qui... je sais pas, qu'est-ce que t'as envie
Venez
de dire?
Venez à Speed Dating.
Mais oui. Alors, non, mais alors ça, par contre, vraiment, si vous êtes sur la métropole illoise, que vous êtes célibataire et que vous voulez participer à des trucs qui changent, en fait, tu vois, c'est pas le fameux speed dating old school qu'on imagine ou qui change de Tinder, en fait,
c'est
aussi.
Pas gênant. Voilà, c'est faire des rencontres dans la vraie vie. Et en plus, moi, par contre, moi, j'ai que des filles. Du coup, tu vois, je suis en déséquilibre, j'ai pas assez de mecs.
Il y a pas beaucoup, il y a beaucoup plus de filles qui écoutent prendre un café aussi que de mecs. Hein,
bah, moi aussi, tu vois, ceux qui me consultent, c'est plutôt des filles. Et du coup, là, la dernière fois, il y avait trop de filles par rapport aux mecs. Mais, franchement, moi, le meilleur cadeau que je me suis fait, c'est la psychothérapie. Parce que ça permet de mettre de la conscience, tu vois, sur toutes ces choses-là et d'être beaucoup plus en paix. Et tu vois, maintenant, j'arrive à me dire, ah, je vais rencontrer une personne et qu'est-ce qui va m'apprendre. Et ça, je trouve que c'est trop beau dans la vie.
Carrément.
Voilà, donc si vous vous sentez mal d'être célibataire et voilà... Je vous conseille d'aller voir quelqu'un et de ne pas rester seule avec cette souffrance, si vous êtes en souffrance.
Voilà. Et il y a aussi, parce qu'on va faire un petit peu d'auto-promo quand même, pardon, mais la switchologie, on en parle un petit peu.
Mais, du coup, moi, je fais des consultations après d'astro, sur Lille ou en visio.
Et c'est trop bien pour l'avoir fait il y a quelques années maintenant. Non, c'est vraiment intéressant. Pas pour le côté perché ou côté horoscope de la Voix du Nord, tu vois, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le truc de... ça te permet de... Ça te donne des clés, en fait, et des pistes sur où tu vas, d'où tu viens, à quel moment, enfin... Et c'est hyper intéressant à faire. Et franchement, moi, je vous le recommande de le faire parce que c'est... ça peut être un point de départ aussi. Ça peut être un point de départ vers une autre forme de thérapie ou vers plus de connaissances de soi ou d'avoir envie de creuser un peu plus loin. Donc, vraiment, c'est pas sponsorisé. Allez-y, parce que c'est vraiment chouette ce que tu
Merci
fais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Elise.
Merci à toi, Laure.
Merci
et voilà, plein de bonnes choses à tout le monde.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 29 juin, Amandine Noon écrivait « Quel plaisir d'écouter chaque semaine un épisode, et parfois deux. Un travail remarquable, une bienveillance incroyable, un moment de plaisir et de détente assuré. Alors merci infiniment Élise. Je file mettre mes écouteurs en prenant un café. » Merci Amandine pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Et oui, il n'y aura plus d'épisodes cette année. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, passe de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt autour d'un café.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast.
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.